Ayatollah of Rock'n'Rolla. L'émission Metal Rock Psyché de Radio Saint-Afrique. Accrochez vos ceintures, détachez vos cheveux, ça va secouer. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ayatollah of Rock'n'Rolla, l'émission qui forge le métal à grands coups de volutes psychédéliques. Ce mois-ci, une émission consacrée au groupe de heavy metal britannique Iron Maiden. Figurez-vous, auditrice, auditeur de Radio Saint-Af, qu'avant d'être Aveyronnais, j'étais Ardéchois. Et qu'avant d'être chômeur et bénévole dans une radio associative locale, j'étais professeur certifié de français dans l'éducation nationale. À cette époque, j'avais un ami, Yanus, grand fan de la Dame de Fer. Et je ne parle pas de cette fasciste néolibérale de Margaret Thatcher, mais bel et bien de ce groupe culte et pilier du métal. Le monde et la société dans lesquels nous vivons aujourd'hui évoluent à grande vitesse, mais il est des valeurs immuables dont l'amitié. Hommage donc à la bande à Eddie the Head et spéciale dédicace à mon pote Yannick, qui sera ravi de pouvoir faire écouter à sa fille une émission pédagogique sur son groupe préféré. Créé en 1975 à Londres par le bassiste Steve Harris, Iron Maiden appartient à ce que l'on appelle désormais la New Wave of British Heavy Metal, à savoir la NWOBHM pour les intimes. Ayant vendu plus de 85 millions d'albums à travers le monde, le combo britannique s'impose comme l'un des plus grands groupes de métal, toujours actif aujourd'hui après plus de 40 ans d'existence. Composé de Steve Harris à la basse, de Dave Murray et Dennis Stratton aux guitares, de Cliff Burr à la batterie et de Paul Di'Anno au chant, le groupe entre en studio en 1979 et enregistre son premier album Iron Maiden, qui sortira en avril 80 et qui proposera alors un son d'une originalité inouïe à la jeunesse anglo-saxonne, en plein mouvement punk et d'une très grande richesse mélodique. Iron Maiden, Prowler. 1980, le guitariste Dennis Stratton sera remercié par le groupe et Dave Murray suggérera son ami d'enfance Adrian Smith pour le remplacer. En 1981, c'est au tour du chanteur Paul Di'Anno d'être remercié pour cause d'abus de drogue et de son rejet de tout projet de longue tournée. Bruce Dickinson prendra sa place et se démarquera rapidement de son prédécesseur par une identité vocale plus originale, par une technicité largement supérieure et par des textes élaborés. Le troisième album du groupe sort en mars 1982. Il deviendra par la suite l'un des albums cultes et fera polémique à cause de la nature religieuse et présumée satanique de ses paroles et de son graphisme. Faut dire qu'il s'intitule The Number of the Beast et que la pochette représente la mascotte du groupe, Eddie the Head, créée par l'artiste Derek Riggs, en compagnie du diable himself. Ouh. Vous l'aurez compris, le groupe a toujours démenti toute accusation de satanisme en défendant la liberté de son travail artistique. Et si l'on devait m'accuser d'en faire autant à travers cette émission, eh ben, je crois que j'userais du même argument. Iron Maiden, The Number of the Beast. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were the reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Nights were Les 80s sont la décennie d'Iron Maiden. Après le coup de maître de l'album The Number of the Beast, le groupe britannique amorce sa deuxième tournée mondiale des States à l'Australie en passant par le Japon. 179 concerts devant plus d'un million de spectateurs. Le rythme effréné des tournées démesurées fera partie intégrante de la vie des musiciens et aura parfois des conséquences fâcheuses sur eux. Ainsi, des tensions naissent entre Bruce Dickinson et Steve Harris qui se disputent la vedette sur scène. Le batteur Cliff Burr jette l'éponge, épuisé par la cadence infernale des tours. En 1982, Nico McBrain, qui vient d'enregistrer l'album Marche ou Crève avec le groupe français Trust, le remplace derrière les fûts. Le groupe ainsi constitué deviendra la formation la plus populaire de la Vierge de Fer. McBrain n'est pas seulement un excellent batteur au style immédiatement identifiable, c'est aussi un homme fantasque qui joue pieds nus sur scène et qui assume avec classe le rôle d'amuseur du groupe. Après l'enregistrement de Peace of Mind en 1983, le combo nous livre le chef-d'œuvre Power Slave en 1984. Eddie prend des poses de pharaon et le morceau Two Minutes to Midnight fait référence à l'horloge de la fin du monde ou horloge de l'apocalypse, qui est une horloge virtuelle créée en 1947 au début de la guerre froide pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Savez-vous, chers auditrices et auditeurs de Radio Saint-Aff, qu'en 2015, cette horloge indiquait 23h57, soit 3 minutes avant de nous faire sauter le caisson. Iron Maiden, 2 minutes to midnight. Enjoy, nous serons peut-être plus là à la fin de la chanson.
Oh,
Vous êtes à l'écoute d'Ayatollah of Rock'n'Rolla sur Radio Saint-Afrique et nous poursuivons notre rétrospective sur la Dame de Fer. L'album Power Slave, dont nous venons d'écouter un morceau, regorge de pépites, tel le progressif Rime of the Ancient Mariner, qui s'inspire du poète romantique Samuel Taylor Coleridge. Mais oui, Yanus, tu disposes d'un argument de choc pour faire valoir tes goûts musicaux auprès de ta professeure d'anglais de femme, et qui s'étend sur plus de 13 minutes. Car ce qui fait le succès du groupe, encore aujourd'hui, n'est pas seulement la qualité de ses compositions musicales, mais aussi et surtout l'imaginaire visuel et textuel qu'il a su créer. Les sources d'inspiration des paroles des chansons d'Iron Maiden sont multiples et extrêmement variées. La mythologie grecque, la Bible, la littérature de Shakespeare à Aldous Huxley en passant par Edgar Poe, l'histoire de Jules César à la guerre froide en passant par les Cathares, le cinéma et les séries télévisées offrent au groupe et aux fans un fond inépuisable et d'une grande richesse culturelle. Bref, les métalleux sont moins cons qu'ils en ont l'air et les vestes à patchs qu'ils arborent valent mieux que toutes les décorations militaires. 1986, Somewhere in Time, pochette futuriste dans le pur style Blade Runner. Quelque part dans le temps se cachent des années gâchées. Iron Maiden, Wasted Years.
We'll be right back.
En 1988 paraît le septième album du combo britannique, Seven Son of a Seven Son, qui représente un travail de collaboration colossal entre les musiciens et qui est aujourd'hui considéré comme le plus abouti d'un groupe au sommet de sa carrière. Concept album, Seventh Son of a Seventh Son, s'inspire du folklore anglo-saxon et du roman de fantasy Le Septième Fils de l'écrivain américain Orson Scott Card. Les paroles des chansons traitent de mysticisme et d'occultisme et ont une portée philosophique. Le bien contre le mal, la vision prophétique, la vie après la mort et la réincarnation. Les membres du groupe sentent bien qu'ils arrivent à un tournant de leur vie professionnelle et commencent à s'interroger. Jusqu'où peuvent-ils donc aller? Les tournées de plus en plus intenses, le succès et la reconnaissance. Pour de petits banlieusards londoniens qui jouent juste du rock'n'roll, un peu plus heavy que leur aîné de Deep Purple ou de Black Sabbath, ce n'est déjà pas si mal. Et il y a de quoi perdre son sang-froid. Can I play with madness? Can I play with madness?
Can I play with madness? The perfect.
Après une telle réussite, la chute est inéluctable. De 1989 à 1995, le groupe connaît donc une période d'instabilité. Bruce Dickinson se lance dans un projet solo, Adrian Smith jette l'éponge. Un nouveau guitariste est recruté, Yannick Gers. L'album suivant porte bien son nom, No Prayer for the Dying, pas de prière pour les mourants. Une nouvelle génération de groupes comme Metallica propose un son plus moderne. Le grunge est sur le point d'exploser et d'entraîner avec lui toute la jeunesse occidentale. On retiendra pourtant cette composition de Bruce Bruce, les Screamers, figurant sur la BO du cinquième volet des aventures de Freddy Krueger. Bring your daughter to the slaughter.
Let her go. Bring your daughter.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Ayatollah of Rock'n'Rolla sur Radio Saint-Af, dans une émission consacrée au groupe anglais Iron Maiden. En 1992, le groupe sort son 9e album, Fear of the Dark, qui obtient un certain succès. C'est le premier dont la pochette n'est pas réalisée par Derek Riggs. Les fans devront se remettre de ne pas avoir à chercher le signe ésotérique fait de cercles et de lignes droites qui constituait sa signature. C'est sur cet album que se trouve la chanson d'amour de Maiden. Non mais en fait, moi je ne baisse pas, je fais l'amour, voyez. Le sexe sans sentiment, c'est mal, voyez. Comme quoi on peut s'habiller tout en noir et aller agiter ses cheveux dans un pogo entre couilles et avoir un tout petit cœur d'artichaut qui palpite sous le cuir. Allez, Wasting Love.
Cry the tears, the tears.
En 1993, c'est Bruce, le pilote de ligne, qui s'envole vers d'autres cieux et finit par quitter le groupe, au grand dam des fans pour qui le chanteur est devenu irremplaçable. Mais c'est sans compter sur l'opiniâtreté du bassiste Steve Harris, seul membre du combo présent depuis sa création en 1975 jusqu'à aujourd'hui et crédité sur tous les albums. Faut dire que Steve, ce n'est pas juste un bassiste, dont le jeu pourtant caractéristique, puisqu'il joue sans médiator, a influencé de nombreux adeptes de la 4 cordes. Non, Steve, c'est aussi le principal parolier de la Vierge de Fer et son leader incontesté. D'ailleurs, le guitariste Yannick Gers dit de lui que sans sa conduite et son ambition, Iron Maiden n'existerait pas. Il en est le cœur et la puissance. C'est donc tout naturellement lui qui choisit le nouveau chanteur Blaze Bayley et pousse le groupe en studio pour enregistrer The X Factor en 1995 et Virtual Eleven en 1998, dont je vous propose d'écouter le titre Future Real. Blaze Bayley aura bien du mal à être accepté par les fans de Maiden, qui se réjouiront avec force enthousiasme du retour de Bruce Dickinson et du guitariste Adrian Smith en 1999. Le groupe compte désormais 6 musiciens, dont 3 guitaristes qui alternent à tour de rôle les parties rythmiques et solistes. Ils partent en tournée et rentrent en studio pour offrir l'album du grand comeback Brave New World en 2000. Mesdames et messieurs, Iron Maiden, The Wicker Man. Ici Ayatollah of Rock'n'Rolla depuis le studio de Radio Saint-Afrique au cul de l'église. Cette émission entièrement consacrée au mythique groupe britannique Iron Maiden, pionnier du heavy metal, touche à sa fin. Depuis le début des années 2000, la Vierge de Fer nous a encore offert 4 albums, dont le dernier, The Book of Souls, date de 2015. Les tournées se font désormais en Boeing, le Head Force One, à l'effigie de la mascotte Eddie the Head et piloté par le chanteur lui-même. Aujourd'hui, Bruce se remet gentiment d'un cancer à la langue avant de repartir en tournée. Putain, ces mecs-là ne s'arrêtent donc jamais. C'est comme les techniciens de la radio. Allez, encore un grand merci à Phil. Nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, en septembre prochain pour de nouvelles aventures rock'n'rollesques. D'ici là, portez-vous bien et allez donc faire un tour sur la page de l'émission sur le site web de la radio. Speed of Light sonne comme du Deep Purple. Ah bah tiens, c'était pas leur influence majeure ça? Et ne me dites pas que ces mecs-là ne savent plus jouer, je vous répondrai que vous avez perdu votre jeunesse. Allez, vive Maiden, vive l'Ardèche libre et vive le rock'n'rolla.